Revue de presse en solo aujourd'hui, 1er mai oblige. 1er mai, enfin le temps de penser à nous, écrit Emery Christensen dans son édito de la vie. Le temps aussi de s'interroger sur la pertinence ou non de restreindre ses jours fériés au nom de l'activité économique. Dans sa chronique « D'hier à aujourd'hui », Laurent de Boissieu, que je lis sur le site de La Croix, revient lui aussi, alors dans le contexte du débat politique sur l'ouverture de commerce le 1er mai, il revient sur l'histoire très politique du 1er mai, de la Journée internationale des travailleurs jusqu'à Saint-Joseph-Artisan, fêté le même jour. Angle d'approche légèrement différent avec Théophane Leroux, plume mordante de famille chrétienne, qui dans les pages du magazine revient quant à lui sur son expérience de reconversion professionnelle et qui, à l'occasion du 1er mai, médite sur, et je le cite, « la place rarement ajustée du travail dans nos vies ». Et de nous rappeler alors comment, dans l'histoire des hommes, la vision du travail a toujours oscillé entre malédiction, la punition divine, et la bénédiction, collaborée à l'œuvre du Créateur. Le travail, lieu d'asservissement ou d'épanouissement ? Rien de tout cela. Et pour éviter ces deux écueils, notre confrère s'appuie tout simplement sur la spiritualité monastique. Être attentif au réel et faire de son travail une prière. Dans Famille chrétienne, toujours, vous lirez une très intéressante enquête. Travailler pour l'Église ? Un sacerdoce ? Il faut savoir qu'en France, l'Église emploie quelque 12 000 personnes, l'équivalent d'une société comme Alstom. Ce à quoi s'ajoutent des milliers de bénévoles. Mais qu'est-ce qui pousse donc autant de personnes à travailler dans et pour l'Église ? Le hasard ? La Providence ? Une quête de sens ? Après avoir travaillé pour plusieurs musées parisiens, Myriam Aubry se demandait comment être davantage missionnaire. Lorsque l'Église Saint-Sulpice l'a contactée pour concrétiser un parcours de visite des chapelles. « Mon travail, dit-elle, est devenu le lieu de rencontre avec le Christ. » Autre volet, travailler pour l'Église implique certaines concessions financières. Responsable des ressources humaines du diocèse de Nanterre, Charlotte Mirebeau admet « Quand je veux recruter, je me prive de bons profils parce que, comme je paie mal, je ne peux pas faire de concurrence. » Myriam Aubry, elle, conseille de ne pas chercher la rentabilité. Quand on travaille pour l'Église, il y a un équilibre à trouver entre travail et esprit de service. D'autres salariés disent aussi leurs limites à représenter l'Église et le Christ aux yeux de tous. Ainsi, une ancienne adjointe en pastorale. Il m'arrive parfois de frôler l'allergie et d'avoir une pèlerinite aiguë. Moine bénédictin à Saint-Vendry et coach, le père Ludovic Lucuru pointe le nouveau défi à relever par l'Église. Connaître les laïcs qui travaillent pour elle et les former. Et d'ajouter « Il n'y a pas que les déserts médicaux, il y a aussi les déserts sacerdotaux. Et là, les laïcs font un travail phénoménal. » Mois de mai, mois des ponts. Dans une série intitulée « Les pouvoirs du sport », le journal La Croix fait la part belle aux bienfaits de l'activité physique. Ainsi, dans l'édition de ce lundi, vous lirez comment, avec son camion, l'éducateur sportif Romain Parmentier dispense des cours hebdomadaires dans les territoires ruraux profonds des Pyrénées-Orientales. Des cours appréciés particulièrement par les seniors, qui voilà une occasion de tisser, de retisser le lien social, tout autant que celui de pratiquer une activité physique. Le secret ? Pédagogie et bonne humeur. Ce mardi, nos confrères de La Croix étaient à la maison d'arrêt d'Épinal, là où une trentaine de détenus participaient à une journée mêlant basket et recrutement. Dans cet univers clos, la perspective d'un emploi change tout. Elle peut même, dans certains cas, ouvrir la voie à une sortie anticipée. Ce genre de journée, ça prouve aussi qu'on ne nous oublie pas, glisse Théo, touché par la présence des recruteurs. Et puis, toute la presse chrétienne tourne encore et toujours son regard vers le Moyen-Orient et vers Jérusalem. Une ville qui n'appartient à personne de manière exclusive, écrit Marie-Lucille Kubacki, notre consœur de la vie. Les lieux saints deviennent des champs de bataille identitaires. Les mots poignants du cardinal Pizzaballa, que je lis dans La Croix de ce mercredi. Dans une lettre pastorale d'une rare densité, publiée ce lundi 27 avril, Le patriarche latin de Jérusalem propose des pistes pour repenser le rôle singulier que les chrétiens peuvent jouer en contexte de guerre. Je vous renvoie à la croix de ce mercredi et à l'hebdomadaire La Vie qui décrypte et analyse cette lettre. Et enfin, pour terminer, quelques notes d'espérance. Ils portent le même prénom. L'un est israélien, l'autre palestinien. Ce lundi dans la croix, à l'occasion de la parution de leur dictionnaire amoureux, l'un d'Israël, l'autre de la Palestine, les deux historiens et amis, Elie Barnavi et Elias Sambar, tous deux partisans du dialogue et de la paix, jettent un regard lucide sur l'avenir de leur peuple. Dans La Vie, c'est le visage lumineux d'Eti Hillesum, jeune étudiante juive d'Amsterdam, morte à Auschwitz en 1943, qui fait la une du magazine. Admiratif et nourri par les écrits d'Eti Hillesum, grande figure de la spiritualité contemporaine juive et chrétienne, le réalisateur israélien Hagai Levi vient d'adapter l'autobiographie de la jeune fille, Une vie bouleversée. Une série qui sera diffusée sur Arte ces 21 et 28 mai. Note d'espérance enfin avec l'écrivain Jean Rouault qui, toujours dans La Vie et à l'occasion de la parution de son dernier livre, La maison imaginaire, nous amène aux sources de son inspiration, la Bible. Alors qu'en voyant un soldat israélien marteler une statue de Jésus crucifié, on pourrait se demander, comme je le lis toujours dans divers médias chrétiens, si l'État d'Israël devient antichrétien. Toute l'espérance de Jean Rouault réside dans ce livre, la Bible, dans ce lien entre juifs et chrétiens.